par-delà les sept montagnes, par-delà les sept rivières, un royaume, son roi et sa reine, heureux. Une seule ombre, ils n'ont pas d'enfants. Une nuit, la reine rêve. Elle rêve qu'elle va être enceinte. Elle rêve qu'elle va avoir un enfant. Et le lendemain, quand elle se lève, elle sent dans son ventre une présence. Et son mari de roi, heureux d'apprendre cette bonne nouvelle, claque du talon et... Donnez-moi un fils. Ma reine, donnez-moi un fils, je vous en prie. Caressant son ventre, il sera ce qu'il sera. Son ventre grossit. Dehors, les premières neiges. Elle le met au monde et elle sait. Elle sait qu'elle ne survivra pas. Et quand elle voit son fils, la peau blanche, elle lui donne le nom de Perce-Neige. Et elle s'éteint. Le roi élève son garçon. Il veut lui apprendre à se battre. Et quand il devient un petit garçon, il veut lui donner des leçons. Des leçons pour manier l'épée. Mais Perce-Neige s'y refuse. Tu es doux et délicat comme ta mère alors que tu devrais être craint. Perce-Neige refuse. Alors son père, pour l'endurcir, le frappe. Mais rien n'y fait, Perce-Neige ne cède pas, il ne veut pas apprendre à se battre. Il le bat et l'enferme dans sa chambre. Perce-Neige grandit et refuse toujours de se battre. Et là, enfermé dans sa chambre, il rêve. Il rêve qu'une princesse vienne le délivrer. Mais les princesses, elles, on leur a appris que ce sont les princes qui viennent les prendre dans leur tour. Alors, qu'est-ce qu'elles font, les princesses? Elles se coiffent, elles se parent de leur plus belle toilette, et Perce-Neige reste enfermé dans sa chambre. Dans le royaume, il y a ces petits bruits qui courent, ces petites phrases assassines. Notre prince n'est en réalité qu'une princesse, non? Enfin, c'est un garçon manqué. Je le dis à voix basse, mais tout le monde le pense. Et ces petites phrases viennent aux oreilles du roi, qui en tombe malade. Alité depuis plusieurs semaines, il sent sa mort arriver, alors il prend son épée. Épée, dis-moi, que dois-je faire? Eh bien, mon roi, il n'y a qu'une chose à faire. Vous envoyez votre fils au devant des combats. Sans armes, sans bouclier, il sera mort. Et pour un roi, un fils mort à la guerre, c'est un honneur. Le roi retrouve quelques couleurs, quelques forces, se redresse, se lève et fait appeler son capitaine. Vous allez amener mon fils au devant des batailles qui grondent, sans épée, sans armure, et vous me rapporterez son cœur. Le capitaine s'exécute. Il prépare son cheval, fait préparer un cheval pour Perce-Neige, et tous deux chevauchent. Ils s'enfoncent dans une forêt profonde. La nuit arrive, ils dressent un campement. Autour du feu, le capitaine est très, très surpris de ce jeune prince, qui ne tente pas de fuir, qui va pourtant à une mort certaine. Des soldats, il en a connu. Il en a connu des dizaines, des centaines, mais jamais, Jamais un soldat n'a été aussi courageux que Percenège. Mais enfin, tu n'as pas peur ? Bien non. De quoi aurais-je peur ? Il s'endort, mais au petit matin, le capitaine se réveille avant le prince. Il n'a pas envie d'arracher le cœur de Percenège une fois mort sur le champ de bataille. Il veut lui donner une chance. Alors sans faire de bruit, il s'en va. Il s'en va et sur le chemin rencontre quelques gibiers à qui il prend le cœur et le rapporte au roi. Percenège se réveille au milieu de cette grande forêt. Il n'y a rien alentour, alors il marche, essayant de trouver quelques chemins. Il marche droit devant lui, sans but. Et tout à coup, au milieu de cette forêt, il entend un petit air de musique. Il se cache derrière les feuillages et devant lui se dresse un arbre majestueux. Il y a quelque chose d'étonnant qui se produit, comme une porte qui s'ouvre dans cet arbre et trois ogresses qui en sortent.
Mais enfin, si tu l'avais rangé à sa place, il ne serait pas tombé. Mais ça va être de ma faute. Ça va être de ma faute que tu fais renverser chaque chose de notre petit logis.
Oh, toutes les deux, vous m'êtes insupportables, je ne veux plus vous entendre. Retrouvons-nous là ce soir. Et les trois ogresses disparaissent dans la forêt. Percenège s'approche de l'arbre et chante cette petite mélodie. La porte s'ouvre. Un escalier. Il le descend et arrive dans une pièce. Une pièce jolie mais poussiéreuse, pleine de toiles d'araignée. Et là, au milieu de la cheminée, des morceaux de verre. Et puis des lentilles éparpillées dans les cendres. Une à une, il récupère chaque lentille, chaque morceau de verre. Il rince les lentilles et avec quelques légumes qui se trouvent là, confectionne un plat. Et pendant que ce plat cuit, il commence à faire le ménage de cette jolie petite pièce. Toile d'araignée après toile d'araignée, un coup de balai, il fait les lits. La maison est comme neuve. Il va se cacher derrière la cheminée. Et les ogresses ne tardent pas à arriver. Il entend la petite mélodie. Des pas dans l'escalier. Ça sent la chair fraîche. Mais notre maison n'a jamais été aussi bien rangée. Ce ne peut être qu'une jeune fille. Allez, sors de là, nous ne mangeons que les garçons. Percenège sort de derrière la cheminée. Vous pouvez me manger. De toute façon, mon père m'envoyait sur les champs de bataille pour que j'y trouve la mort, alors, ici ou là. J'en ferai bien mon 4 heures. Si tu touches à un de ses cheveux, c'est moi qui m'occupe de toi. Percenège ne semble pas être conscient de sa beauté. Et les ogresses sont subjuguées et sont touchées par le récit de Percenège. Alors elle lui propose de rester là. Mais attention, Percenège, il faudra que tu fasses vraiment, vraiment les choses avec précaution, que tu ne t'éloignes pas. Si jamais on te découvrait, notre cachette serait connue et nous serions tous perdus. Percenège remercie et promet de faire attention. Il ne s'éloigne pas, il va ramasser quelques baies, quelques châtaignes. Il confectionne des pains savoureux. Il fait le ménage. Les ogresses sont ravies. Jour après jour, il trouve de nouvelles choses à faire car il finit par s'ennuyer. Il prend quelques toiles d'araignée et confectionne des capuchons qui ne laissent passer ni la neige ni la pluie. Les ogresses sont ravies. Mais au bout de quelques temps, elles voient bien que Percenège s'ennuie.
Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Nous voyons bien que tu es éloigné des tiens et que vivre avec nous n'est pas très amusant, mais nous pourrions trouver quelque chose qui pourrait te distraire. Oh oui, j'aimerais bien une plume de vent.
Une plume de vent?
Oui, juste une plume de vent.
Bien, nous ferons ce que nous pourrons.
Quand elles reviennent le soir, elles déposent une plume là sur la table. Eh bien, elle nous en a donné du fil à retordre. Nous as-tu préparé un bon repas pour nous remettre de cette journée pénible?
Elles sont ravies du repas et Personnage est très content.
Le lendemain matin, après leurs précautions, comme à leur habitude, les ogresses s'en vont et s'enfoncent dans la forêt. Lui, Personnage, monte dans l'arbre. Il monte sur la plus haute branche. Arrivé là-haut, il souffle sur la plume. Alors, une bourrasque de vent, une bourrasque commence à secouer toutes les branches de tous les arbres et Personnage doit s'agripper car le vent se renforce et puis se calme. Il se trouve là devant lui.
Bien, tu m'as appelé, que me veux-tu?
Merci, vent, d'être venu jusqu'à moi. Je voudrais que tu rapportes cette chanson au royaume de mon père.
Mon père voulait me tuer, mais je l'ai bien trompé, car chez les trois ogresses, je mange et je m'engraisse. Mon père voulait me tuer, mais je l'ai bien trompé, car chez les trois ogresses, je mange et je m'engraisse.
Et le vent, de nouveau, prend son élan et repart, et toutes les branches de tous les arbres de la forêt sont secouées, 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 et Personnage s'agrippe de toutes ses forces. Et bientôt le calme revient. Le vent s'en va et dépose sur les toits du royaume du père de Personnage cette petite chanson.
Mon père voulait me tuer, mais je l'ai bien trompé, car chez les trois ogresses, je mange et je m'engraisse.
Et tout le royaume entend. Et le père de Personnage, le roi lui-même, entend. Il rage, il prend son épée. Tu m'as menti?
Non, roi, ce n'est pas moi qui vous ai menti. C'est votre capitaine.
Guide-moi jusqu'à cet endroit. Guide-moi jusque chez ces trois ogresses.
Et l'épée le guide à travers la forêt épaisse.
Devant l'arbre, le roi appelle. Personnage, Personnage, mon fils bien-aimé, tu es là?
Oui, père, je suis là.
Ouvre-moi que je te serre dans mes bras.
Non, père. Non, père, je ne t'ouvrirai pas. Je savais que tu manquais cruellement de courage. Et puis, il a prononcé une phrase. De ces phrases qui parfois peuvent donner la mort. Je savais que tu n'étais pas un homme. Personnage, en entendant ces mots, s'est effondré par terre. L'arbre est devenu glacé, le givre a recouvert les alentours,
et le père a voulu essayer d'ouvrir l'arbre. Il a planté son épée dedans,
mais rien n'y a fait, et l'épée elle-même a gelé, impossible de la retirer.
Les trois ogresses arrivent à ce moment-là, au moment où le roi tente de retirer son épée du tronc.
Elles comprennent immédiatement.
Elles se jettent sur lui et le dévorent. Et elles chantent leur mélodie, elles chantent à s'époumoner,
mais rien n'y fait, l'arbre ne s'ouvre plus. Elles pleurent
là pendant des heures,
mais rien n'y fait. L'arbre ne s'ouvre plus. Elles partent. Elles partent dans la forêt profonde. On ne les revit plus.
De l'autre côté de la mer, là-bas, un sultan. Un sultan qui aime sa fille par-dessus tout. Un sultan qui veut la marier. Père, enfin, ne vois-tu pas que ce que tu me promets n'a rien... n'a rien d'enthousiasmant. Il faudrait que je sois là, derrière ma fenêtre, à attendre mon mari, sans connaître le monde, le connaître que par ses récits à lui. Laisse-moi un an, laisse-moi juste un an, père, et je reviendrai. Je reviendrai et je me marierai, je te le promets. » Le sultan aimait tant sa fille qu'il l'a laissée s'en aller. Elle est habillée comme un garçon, l'épée de côté, et elle a rencontré le monde des pauvres et le monde des riches, la misère et l'opulence, elle a rencontré les sages et les fous, elle a guerroyé, elle a festoyé, et l'année s'est passée. Elle traverse une forêt pour respecter sa parole et être entrée, un an, jour pour jour après son départ. Quelque chose dans cette forêt touffue attise son œil. Un arbre givré avec une épée fichée dedans. Elle descend de cheval et va retirer l'épée qui s'échappe sans aucune difficulté du tronc de l'arbre. Et l'arbre ouvre son écorce et laisse apparaître un jeune homme d'une grande beauté, au teint extrêmement pâle. Elle s'agenouille, le prend dans ses bras et il est glacé, elle le réchauffe, elle le frotte, il est si beau que elle ne s'aperçoit même pas que ses lèvres sont déjà posées sur les siennes. Il ouvre les yeux, ses joues rosissent, il reprend de la vie. Il a l'impression d'être dans un rêve, ce visage qui se trouve là devant lui, si près. Il l'a rêvé quand il était enfermé dans sa chambre, cette princesse qui viendrait le délivrer. Il n'en croit pas ses yeux. Il se parle, il se présente, il se découvre, il s'apprécie et tombe amoureux. « Viens, viens avec moi, personnage, viens dans mon royaume, nous nous marierons. »« Oui, je le veux, mais j'ai une chose à te demander avant. » »« Je te demande de ne jamais me demander de me battre, de jamais ne me demander de faire quelque chose que je ne veux pas. » La jeune femme sourit. « Je t'aurais demandé exactement la même chose. » Et leur regard, plein d'amour et de confiance, fait office de contrat entre eux. Ils montent derrière elle, ils chevauchent jusqu'à la mer, montent dans un navire qui traverse jusqu'au pays du sultan. Il reçoit les deux amoureux, les maris, et les années passent. Elle devient sultane et personnage à ses côtés est un bon conseiller. Dans ce royaume, la paix règne. Et si jamais vous passez par là, restez-y.